Alors, on démarre le cours numéro 2. Cours numéro 2, c'est bien gentil, mais de quoi ? De survol du Nouveau Testament. Alors, nous allons continuer. Nous avions fait une petite introduction, on va dire. On avait commencé les évangiles. On avait vu pas mal d'informations générales. On avait vu un joli tableau qui m'avait fallu beaucoup de labeur pour écrire sur le paperboard. Puisque j'arrivais pas à tenir ma Bible, le micro et mon cahier et écrire avec le... Voilà. Mais bon, on y est quand même arrivé. Alors ce soir, je pense que ce soir, on finira pas ce que j'ai prévu, mais c'est pas grave. Donc on va continuer un petit peu des informations générales sur Luc. On était à Luc, vous vous rappelez de Luc ? Donc quelques informations générales sur Luc. Je vous en donnerai quelques-unes générales sur Jean. Et ensuite, on essaiera de basculer sur des textes. Et on devrait essayer de voir quelque chose d'intéressant dans Matthieu. Et ensuite, vous voyez déjà, c'est pas sûr qu'on arrive jusque-là. Mais admettons qu'on y arrive, on ira ensuite voir le Luc chapitre 15. Pour, en fait, pas tant pour expliquer, analyser les paraboles, ça, mais plutôt... pour expliquer certaines choses pour tous les évangiles, en fait. Et notamment expliquer comment on doit aborder des paraboles, en fait. Donc après, l'intérêt ne sera pas forcément d'expliquer en soi les paraboles, vu que c'est quand même très connu. Mais ça nous permettra d'avoir un support. Donc on va continuer un peu à survoler notre histoire. Donc sur Luc... Donc Luc, on avait vu que c'était donc le collaborateur de Paul, qu'il a participé au voyage missionnaire de Paul, ce que quelque part on verra dans les Actes, d'une certaine manière, des Actes des Apôtres. Donc lui n'est pas un témoin oculaire des évangiles, en fin de compte, puisqu'il arrive après, qu'il est collaborateur de Paul, qui lui-même d'ailleurs n'est pas non plus un témoin oculaire. Des évangiles, mais par contre, en fait, donc Luc, c'est un médecin, donc on va dire c'est quelqu'un qui est carré, qui est scientifique, qui est méthodique, et il fait un travail de reporter, ce qui fait que lui, il fait un travail qui, quelque part, qui est quand même différent de celui de Matthieu et de Marc, qui sont des témoignages oculaires, même si Marc, le témoignage, il est oculaire, mais on va dire que Marc, c'est la lunette de l'œil de Pierre. J'ai un direct dans le sens que ce n'est pas forcément le témoignage de Marc, mais c'est celui de Pierre, transmis par Marc. Mais lui, là, il fait un travail qui est différent. C'est un travail de recherche, on pourrait dire. Un travail de reporter, un travail d'historien. Comme je l'ai dit la dernière fois, il faut considérer que l'œuvre, entre guillemets, de Luc... C'est un gros bouquin en deux tomes. Le premier, c'est l'évangile de Luc, et le deuxième, c'est Actes des Apôtres. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que pour lui, il y a une logique qui se suit dans tout cela. Son destinataire est le même de manière générale et de manière précise, puisqu'il parle d'un individu en particulier qui est un gréco-romain éduqué d'une haute société, donc qui est Théophile. Il s'adresse à lui. Donc, l'objectif, ce qu'il dit au début... au début de son évangile, ça vaut pour acte. Donc je vous le lis rapidement dans le texte plutôt que de dire des approximations. Donc plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Donc là, il parle des apôtres, des 12, enfin 12, des 11, puisqu'il y en a un. Il n'a pas fini. Donc, il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses, depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Donc, ça veut dire que ce gars-là, comme je vous dis, c'est un païen converti, qui est dans la haute société, qui a peut-être un peu des doutes et qui... on va dire à travers lui, il représente une classe d'individus, c'est-à-dire les païens et du coup plutôt bien éduqués. Ce qu'on pense aussi, c'est qu'au moment, enfin on pense, c'est un peu une approximation, mais On pense que l'évangile de Luc ainsi que le livre des Actes, donc ont été écrits évidemment par une personne, c'est ce que je vous dis depuis un moment, mais par contre ont été écrits à peu près dans un temps qui est le même, à quelques mois ou à une ou deux années près. À un moment donné, dans le livre des Actes, il y a la première incarcération de Paul. Oui, de Paul. Et donc, pendant ce temps-là, on pense que Luc a fait justement ce genre de recherche. Il a dû un peu se balader, interroger les gens, rassembler des éléments. Une chose qu'il fait aussi, vu que lui, son objectif, c'est pas de s'adresser aux Juifs, comme on a vu pour Matthieu, c'est de s'adresser donc aux païens. Il y a une dimension du coup d'apologétique, une dimension de prouver des choses en fait, de prouver que les événements sont vrais. Ce qui fait que, par exemple, à pas mal d'endroits dans son évangile, contrairement aux autres, les situations, certaines situations du moins, mais non pas tout, sont situées dans un contexte païen. C'est-à-dire qu'il fait référence à des choses qui se sont passées, qui ne sont pas forcément d'ordre religieux, mais qui sont dans le monde, tout simplement, comme si aujourd'hui je disais, je ne sais pas moi, on a eu une conférence avec Pasteur Chaleur, c'était l'année où il y a eu un tremblement, et où non, par exemple, je me rappelle, on y était. Tu sais, la conférence où on est allé à Budapest, où il y avait Pasteur Chaleur, et en fait, c'est l'année où il y a eu le problème à l'usine atomique au Japon. Bon, ben, ça n'a rien à voir avec la religion, mais ça, pour les gens qui sont contemporains, ça leur situe de quoi on parle. De citer, pareil, des consuls, des proconsuls, des personnes, des personnalités de l'époque, de ce moment-là, ça permet de situer et d'ancrer le message de l'Évangile dans un contexte qui est temporel et qui est connu des gens. Ça, c'est pas juste un rêve qui sort de nulle part et puis, écoutez, croyez-moi, parce que j'ai pris un gros coup de soleil cet après-midi dans la grotte. Il y a un ange, et puis le Saint-Esprit et Dieu en chair et en os qui me sont apparus et ils m'ont dit, et donc vous devez me croire, quoi. Non, les choses sont mises dans un certain contexte qui est connu, en fait, pour eux. Donc ils rattachent les événements à l'histoire profane. On peut le dire comme ça, le QN le dit mieux que moi. Vous voyez, moi, je fais des circonvolutions. Lui, en trois mots, il vous l'a dit. C'était plus compréhensible. Donc après, évidemment, comme je vous dis, la date de rédaction, elle est liée à Actes, puisque les deux sont en même temps, grosso modo. Donc je ne vous redis pas qu'on est avant 70, parce que ça paraîtrait assez trouble qu'il n'y ait pas fait mention d'eux. De la destruction du temple. On pense aussi que c'est dans les années 60, alors pas l'époque des Beatles, hein, les années 60, il y a 2000 ans, hein, au début donc de 60 à 69. Pourquoi ? Parce qu'on sait que Paul, il a été, on va dire, incarcéré une dernière fois à Rome autour de 68. Et dans le livre des Actes, Luc ne mentionne pas l'exécution de Paul. Donc ça veut dire que ça n'a pas eu lieu. Donc si ça n'a pas eu lieu, c'est que lui l'a écrit avant, forcément. Donc voilà les choses comme ceci. Donc on situe plutôt au début des années 60. Le lieu de rédaction en général, on pense traditionnellement que c'est à Rome, qu'il aurait écrit essentiellement à Rome. Son évangile et les actes, même s'il y a d'autres endroits qui ont été proposés comme Antioche, Éphèse ou Corinthe, parce que forcément, comme l'idée, c'est qu'il peut avoir écrit... Enfin, je dirais qu'à la limite, il l'a écrit peut-être essentiellement à Rome, mais étant donné que c'est un travail de recherche qu'il a fait, il peut très bien avoir pris des notes, avoir rassemblé des informations au préalable, et donc dans les voyages missionnaires qu'il a fait avec Paul. Donc effectivement, il y a peut-être des éléments qu'il a déjà écrit, rassemblé à Éphèse, à Corinthe et à Antioche, les villes forcément où il est passé avec l'apôtre Paul. En tout cas, les experts sont sûrs qu'il a écrit en dehors de la Palestine, de l'Israël, quoi. Une chose aussi à savoir, comme ça rapidement, près de la moitié du contenu de l'évangile de Luc ne se trouve ni dans Matthieu ni dans Marc. On y retrouve 6 miracles sur 20 potentiels, on va dire, 19 paraboles sur 35. Quand je dis potentiel, c'est recensé dans les 4 évangiles, en fait. Et comme quand je vous dis c'est un travail de recherche, par exemple, une chose qui va dans ce sens-là, c'est le seul qui fait un récit de l'enfance, enfin un récit, qui fait référence à l'enfance de Jésus, plutôt. Puisque les autres, enfin, hormis Jean, les autres, et encore non, si Jean aussi, rapidement, ils parlent de la naissance, et puis après, plus personne, quoi. On arrive 30 ans plus tard, et on parle de la suite. Donc lui, non. Alors, pourquoi est-ce que, justement, il y a ce genre de choses-là? Parce qu'il y a aussi d'autres choses qui sont un petit peu plus particulières dans l'évangile de Luc que dans les autres. C'est qu'on voit un intérêt pour la vie domestique, pour les détails de la vie courante. Donc, comme je vous dis, il retrace, on va dire, la naissance et une partie de l'enfance de Jésus. Quand je dis retrace, c'est un grand mot, parce qu'on sait bien qu'il y a, il y a un événement, c'est tout. Hein, il n'y a pas... il retrace, on se dit, tiens, il a raconté un petit peu brièvement les quelques années. Non, il n'a pas... Il y a un événement, c'est tout. Mais enfin, il y a un événement, non, mais les autres, il n'y en a pas. Jésus a 12 ans au temple, les autres, ils n'en parlent pas. On passe de suite de la naissance miraculeuse au ministère de Jésus. Donc, alors oui, donc pourquoi? Donc il y a ces éléments-là, parce que, en fait, lui, ce qu'il veut montrer, entre autres, c'est que Jésus est le Fils de l'homme. Donc il veut montrer un peu l'humanité de ce Jésus, qui est Dieu néanmoins, mais qui est venu se faire homme. C'est Dieu qui est venu se faire homme. Et ça, c'est un petit peu un accent sur lequel il veut insister. D'ailleurs, quand on dit qu'il a voulu montrer que Jésus était le Fils de l'homme, c'est aussi faire référence à une prophétie dans Daniel concernant ben, du coup le Messie, où justement il est parlé du Fils de l'homme qui doit venir. Il est appelé de cette manière-là. Donc vous voyez des expressions du genre n'ayant pas d'endroit où reposer sa tête, il pleure sur Jérusalem, c'est dans cet évangile qu'on le voit. Et une précision que l'on a, alors là, ça montre effectivement son humanité, mais ça montre aussi, d'une certaine manière, peut-être la précision de recherche, on va dire, de Luc, parce que les témoins oculaires, eux, ne le mentionnent pas, le fait qu'il transpire des gouttes de sang, Jésus, à Gethsémané. Les autres ne le stipulent pas nécessairement. Et l'idée principale est de montrer que ce Jésus qui est le Fils de l'homme et qui est néanmoins Dieu, est Dieu et le sauveur de tous les hommes, puisqu'il s'adresse aux païens. Forcément, là, l'idée, c'est pas de montrer, comme par exemple dans Matthieu, c'est le Messie qui est attendu, c'est le roi des Juifs, c'est l'accomplissement des prophéties. Ça, c'est pas le souci numéro un de Luc dans son évangile. Il est la lumière des nations et donc toute l'humanité verra le salut de Dieu. Ce sont des choses que l'on lit dans l'évangile de Luc et pas forcément par ailleurs. Et par exemple aussi, pareil, en Luc 19, 10, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Donc pareil, il y a quelque chose de très... non, pas général, on va dire universel, plutôt. Une chose aussi à préciser, qui peut être intéressante, donc forcément, vous savez que le Nouveau Testament est écrit en grec, et le grec, enfin le style grec utilisé par Luc est le meilleur du Nouveau Testament, au même titre que celui de l'Épître aux Hébreux, dont nous ne connaissons pas l'auteur, même si beaucoup s'amusent à dire que c'est Paul. En tout cas, on n'en sait rien, en fin de compte. Mais c'est le meilleur grec qui est utilisé. C'est aussi un vocabulaire qui est riche, puisqu'il utilise, si je me rappelle, 2000 mots grecs. Et 2000 mots grecs, et 90% des mots qu'il utilise, sont utilisés dans, d'abord dans la traduction de la Septante, la traduction grecque de l'Ancien Testament, et sont, voilà, c'est du vocabulaire qui est utilisé dans tous les auteurs de l'Antiquité grecque, quoi, en fait. Donc, voilà, tout ça, ça nous montre un peu le niveau où est-ce qu'il se situe et l'intérêt qu'il y a. Donc, pour Luc, en termes de généralité, de points comme ça un petit peu intéressants, on va laisser tomber. Et donc, on reviendra tout à l'heure, peut-être, sur... où est-ce que je continue maintenant ? Allez. Ça vous fera une récréation. On va aller dans Luc 15. Et en fait, dans Luc 15, comme je vous ai dit, je ne vais pas chercher trop à expliquer les choses ou à prêcher dessus, même si peut-être que je vais dire deux, trois choses en passant. Mais... Donc, Luc 15, vous savez ce qu'il y a dans le Luc, chapitre 15 hein? Non? Vous avez le droit de dire non, ce n'est pas grave, on ne vous lapidera pas. Donc, il y a la parabole du fils prodigue. Mais ce qui est intéressant, et donc c'est là où je commence à... Je vais faire un petit préambule rapide. Dans les évangiles, en fait, il y a quatre styles que nous retrouvons dans la rédaction des quatre évangiles. Pas un par évangile, c'est dans tous. Premièrement, les évangiles, ce sont des narrations. Donc, on raconte une histoire ou des histoires. Ensuite, à l'intérieur de cette narration, nous allons rencontrer donc des miracles. Nous allons rencontrer des discours, donc la plupart du temps de Jésus. Et nous allons rencontrer une forme de discours qui est des paraboles. Et donc, la semaine dernière, je vous avais parlé, vous savez, de cette histoire de... justement par rapport aux dispensations qu'apprécie particulièrement François, on avait parlé donc du fait que Évangile Acte, c'est une période de transition. Donc on ne va pas forcément y revenir. Mais par contre, en termes d'interprétation et comment est-ce qu'on doit aborder un texte et aborder les différents textes que nous avons dans la Bible, et là en l'occurrence dans le Nouveau Testament, je vous ai dit, Évangile et Acte, ce sont des narrations, ce sont des histoires. Vous n'allez pas interpréter de la même manière, vous n'allez pas aborder de la même manière un texte qui va être une narration. Par exemple, si vous prenez, on sort de la Bible, vous prenez un livre, un roman, c'est une narration, ça raconte une histoire, il peut y avoir des enseignements, des éléments intéressants à l'intérieur, mais je suis dans une narration, je suis en train de raconter une histoire, des événements qui se passent. Je ne suis pas en train de faire un traité de philosophie, un traité d'histoire, un traité de science. Je suis pas... Voilà, il peut y avoir ces éléments-là dans une narration. Mais étant donné que je suis dans une narration et non pas dans un traité de science, par exemple, ou d'histoire, je ne peux pas mettre la même importance sur les éléments de science ou d'histoire ou autre que je vais trouver dans une narration. Ça ne veut pas dire que ça va être dénué, mais ça veut dire que je ne peux pas y mettre la même importance. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des discours, il y a des enseignements à travers les paraboles, et donc à travers les discours, dans les évangiles et dans Actes, mais je ne peux pas l'aborder avec la même simplicité et le même absolu que les enseignements que j'ai dans les épîtres. Parce que les épîtres sont rédigés pour enseigner. Donc je prends de l'enseignement en direct dans la tête. Là, non, je suis dans une... les discours, par exemple, de Jésus vont se retrouver dans le contexte où on vient de vous expliquer qu'il s'est passé quelque chose avant, il se passe quelque chose après. Donc, il y a déjà ce contexte-là qui doit aider à comprendre le discours. Alors que si je prends une lettre de Paul, le seul contexte qu'il y a, c'est à qui il s'adresse et pourquoi il écrit. Et le reste, ben... normalement, il est en train de dire ce que vous lisez, il est en train de dire ce qui est écrit. Il n'y a pas à chercher autre chose. Alors que là, on ne sait pas pareil. Il dit des choses... C'est comme vous prenez un homme politique. Aujourd'hui, par exemple, voilà, comme tout est polémique, vous prenez une phrase d'un homme politique, on la monte en épingle et on fait dire ce qu'on veut faire dire. Sauf que la personne, elle n'a pas écrit un livre. D'abord, quand on prend une phrase, déjà, on ne prend qu'une partie d'un discours. Donc déjà, on n'est pas juste avec l'interprétation, déjà. Mais admettons même qu'on prenne tout un discours que la personne a dit. Ce discours-là, il n'est pas dans un livre où il écrit, par exemple, sa pensée sur telle ou telle chose en politique. C'est un discours qu'il a fait à un moment. Et donc, la manière de comprendre ce discours de cet homme politique, elle doit être prise dans le contexte. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'actualité à ce moment-là? Est-ce que ce discours, il le fait devant des gars de son parti? Est-ce que ce discours, il est, par exemple, un journal télévisé devant toute la France? Est-ce qu'il est dans un débat télévisé? Est-ce que c'est... Enfin, voilà, je sais pas. Est-ce que c'est, par exemple, vous savez, les partis politiques font ce qu'ils appellent les universités d'été? Donc c'est quoi? C'est un espèce de brainstorming dans un groupe de pensée sur un maximum de sujets de la société, puisque c'est leur boulot. Et quand vous dites des choses dans cet endroit-là où c'est un brainstorming, je ne dois pas prendre le discours de la personne de la même manière que le gars, il a bien réfléchi, ça fait des années, il va s'adresser à la nation, ou il va s'adresser devant un journaliste à la télévision, ou à une occasion particulière. Je ne peux pas prendre le discours de la même manière. Et bien là, c'est pareil. Les discours de Jésus, vous ne pouvez pas les prendre avec autant de simplicité que la plupart des lettres de Paul, par exemple. Parce qu'il y a tout un contexte autour. Et le contexte, c'est aussi, la narration nous le dit, c'est à qui il s'adresse, parce qu'en général, il y a plusieurs interlocuteurs à Jésus. Il y a ses disciples proches, ses disciples au sens plus large. Il y a les pharisiens, les sadducéens, il y a les hérodiens, je ne sais pas trop qui, les scribes, de toute façon, qui font partie d'eux. Il y a le peuple qui est là, la populace. Donc, des fois, il s'adresse à une foule. Des fois, il s'adresse à un individu. L'individu est un juif ou l'individu est un païen. Donc, son discours n'est pas le même. Par exemple, quand dans Jean 4, il s'adresse à la femme au puits, il s'adresse à une païenne à qui il ne devrait pas parler. Ça donne un contexte à ce qu'il va dire à cette personne-là. Et ce qu'il dit là ne pourrait pas être compris de la même manière s'il s'adressait à un disciple. Il aurait pu dire la même chose. Dire des flots d'eau vive vont sortir de toi parce que je suis la vraie eau, etc. Il aurait pu dire la même chose à ses disciples. Mais on devrait le prendre un petit peu différemment, certainement. Donc voilà, vous comprenez un peu ce que je veux dire? Donc voilà, donc les quatre points, la narration, le discours, les miracles et les paraboles. Et donc ça, c'était un peu, voilà, comment est-ce qu'on doit un peu aborder les discours. Du coup, ce que je viens de dire là s'applique en tout cas en partie pour les miracles. Pourquoi? Parce que les miracles, c'est pas... Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que les miracles, quelque part, c'est une forme de discours de la part de Jésus. C'est pas juste un fait. C'est-à-dire qu'à travers les miracles, il veut enseigner quelque chose aux gens. Mais à qui il veut l'enseigner? Les miracles se font pas non plus dans n'importe quel contexte. Je veux dire, quand Jésus il va devant le tombeau de Lazare et il prie son père et il dit « Je te demande, mais ce n'est pas pour moi, parce que moi je sais, mais c'est pour eux », ça donne un contexte à ce qui se passe et au miracle qui arrive. Vous voyez ? Les miracles, ce n'est pas que fait Jésus, ce n'est pas juste la manifestation de la puissance de Dieu sur terre. Et voilà, ben, et pendant que 3 ans, il s'est amusé, il a fait quelques miracles, il a montré que Dieu était fort, tout ça, voilà. Qu'est-ce qu'on tire de ça? Alors que Dieu est capable de faire des miracles, d'accord. Bon, très bien, mais ce n'est pas du tout le but. C'est pas du tout le but. Donc, à comprendre que il y a un but. Le contexte dans lequel ça se passe, ça aide aussi à comprendre. Et par contre, que les miracles, ils ont un but d'enseignement aussi. C'est pas juste relater... Là, pour le coup, ce n'est pas juste narrer, relater un fait qui se passe. On le relate... Mais Jésus ne fait pas des miracles juste pour faire des miracles. Donc ça aussi, ça doit nous aider à comprendre et pas juste à lire, voilà, il a fait tel miracle comme si, je sais pas, comme si juste je raconte, vous voyez, comme en Genèse, voilà, Abraham sorti de Ur en Chaldée et il est là vers une destination inconnue, voilà, il est avec... c'est juste un fait, mais ce que je veux dire, c'est que, par exemple, justement, l'exemple, il est bon. Quand je lis en Genèse, qui est un livre aussi essentiellement d'histoire, de narration, historique, on va dire. Abraham quitta Ur en Chaldée pour une destination qu'il ne connaissait pas, ça veut dire ce que je viens de dire. Il y a des chrétiens, à partir de cette phrase-là, ils vont vous faire trois quarts d'heure de message le dimanche matin pour expliquer qu'on doit sortir de nous-mêmes, machin, aller à l'aventure où Dieu va nous guider et tout et tout. Je comprends que l'application qui est donnée, elle n'est pas erronée bibliquement, mais ce n'est pas ce que ça veut dire. Ça veut simplement dire qu'Abraham quitta Ur en Chaldée pour aller dans une destination qu'il ne connaissait pas et que Dieu lui a demandé d'aller. C'est tout. Après, le reste, c'est de la fioriture. Et voilà. Et par contre, là, quand on relate un miracle, ça veut pas dire, ça peut paraître la même chose. Voilà. Jésus est allé à Béthanie. Le corps de Lazare sentait dans le tombeau. Il a prié Dieu et Lazare est ressuscité. Il y a plus à comprendre que ça. Pourquoi il fait ça? Vous voyez? Alors, oui, l'autre chose sur laquelle je m'arrête, puisque j'avais pris Luc 15, c'est les paraboles. Les paraboles, c'est pareil. Il faut faire attention avec les paraboles, comment est-ce qu'on les comprend? On comprend, on les interprète. Parce que c'est des petites histoires gentilles, tout ça, tout ça. Mais ce n'est pas forcément toujours évident à bien comprendre. Il y en a qui sont plus faciles que d'autres. Mais là, par exemple, justement, j'ai pris Luc 15. Pourquoi ? Parce que c'est très connu, c'est facile. Mais j'ai pris aussi pour une deuxième raison, c'est que la parabole du fils prodigue, la dernière, elle est relativement longue. Elle raconte une histoire qui, en plus, s'étale un peu sur le temps. Et, et c'est une parabole qui est souvent utilisée et sur laquelle on a tendance à dire beaucoup de choses. Et du coup, le point sur lequel je veux venir, c'est d'expliquer qu'en fait, c'est pas forcément justifié et judicieux de dire beaucoup de choses, même sur une parabole qui est un peu longue. Parce que, par exemple, pour comprendre un petit peu correctement la parabole ici, déjà, vous lisez Luc chapitre 15, vous apercevez qu'il y a trois paraboles. Il n'y en a pas qu'une, il y en a trois. Vous apercevez qu'il se passe la même... Enfin, schématiquement, il se passe la même chose dans les trois paraboles. La première, c'est avec un objet, la seconde avec un animal, et la troisième avec un être humain. C'est la drachme perdue, c'est la brebis perdue, et c'est le fils perdu, en fait. Donc, il y a un parallélisme entre les trois paraboles. Donc ça doit aussi nous parler. Et pas juste d'arriver, d'être là, et alors, ouais, tu comprends, le fils aîné, ça veut dire, le fils peut dire, et le père, machin, et nanana, et les pourceaux, et le truc. Oui, d'accord, ok. Mais ce que je veux dire par là, c'est que dans une parabole, pour pas vous égarer, même si après, on peut trouver des applications, peut-être des interprétations secondaires qui peuvent avoir un certain intérêt, mais à ce moment-là, soumettons-les à la doctrine de biblique, c'est-à-dire, en fait, à ce qui est l'enseignement, la théologie dans l'ensemble de la Bible, et pas juste de balancer des choses. La première chose, c'est de savoir que dans une parabole, elle est faite pour donner une ou deux vérités. Elle n'est pas là pour expliquer 50 choses. Donc, à partir du moment où vous expliquez 50 milliards de choses dans une parabole, ce n'est pas forcément faux. Des fois, c'est faux. Mais des fois, ce n'est pas forcément faux, mais ce que vous dites à ce moment-là, à quelle hauteur d'étagère vous la placez? C'est-à-dire que voilà, je ne peux pas arriver et dire, voilà, Luc 15, fils prodigue, alors ça veut dire ça, 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 tout ça au même niveau, à la même intensité, et voilà, ça veut dire tout ça. Non, non, non. Vu qu'il y a trois paraboles et qu'à chaque fois, c'est quelque chose ou quelqu'un qui est perdu, ce qu'on retrouve dans les trois paraboles, c'est qu'il y a une perte, il y a une retrouvaille, et surtout, il y a une réjouissance. Et donc, le point principal ici des trois paraboles, c'est quoi? C'est que le cœur de Dieu, il est réjoui quand l'homme perdu est retrouvé. Donc, en fait, quand l'homme se repent et revient à Dieu. Ça, c'est le point à sortir principal, essentiel, et qui, après, peut éventuellement guider des sous-interprétations sur des détails. Mais en fait, on ne doit pas... très important, dans une parabole, celle-ci, une autre, n'importe quoi, ne pas chercher à interpréter tous les détails d'une parabole. Alors, je vais interpréter que c'est un repas, je vais interpréter que c'est un voleur, je vais interpréter que c'est le maître de la maison. Donc, si c'est le maître de la maison, c'est forcément Dieu, d'accord. Il y a des paraboles, par exemple, sur le retour de Jésus-Christ. La parabole, elle va illustrer le fait qu'il va, quand il va revenir, il va venir comme un voleur. Ça veut dire quoi ? Que Jésus est un voleur ? Non. Mais tout comme pour les miracles, par exemple, Jésus transforme l'eau en vin à Cana, le premier miracle, Jean chapitre 2. Dieu veut que nous buvions du vin. Et oui, non, mais il y a des gens, ils disent, ben oui, non, mais Dieu, il n'y a aucun problème, pas problème, je ne vais même pas utiliser ce terme-là, c'est même pas correct de dire ça. Il y a, parce que les problèmes, on les connaît, il y a aucun bémol à mettre bibliquement sur l'alcool, puisque Jésus, son premier miracle, il transforme l'eau en vin, et en plus, il fait du bon vin. Non, il a voulu montrer quelque chose, il a voulu asseoir le début de son ministère, il a fait un miracle, et il a fait un miracle, justement, je parlais de narration tout à l'heure, dans un contexte. De toute façon, ils étaient bourrés. Non, mais de toute façon, ils étaient bourrés. Donc, finalement, ceux qui étaient les moins bourrés, c'est ceux qui ont été les plus lucides et qui ont été capables de dire, mais je ne comprends pas, ils sont allés voir l'ordonnateur du repas, c'est ce que nous dit Jean chapitre 2, les noces de Cana. Je ne comprends pas, d'habitude, on donne le bon vin au début et la piquette à la fin. Et là, c'est du bon vin qui arrive. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, ce n'était pas prévu, mais en fait, il y a un mec, là, on l'avait à moitié invité, il a transformé l'eau en vin, quoi. Et puis, en plus, il a fait du bon, quoi. Ah, mais c'est qui, ce gars ? Et le but du miracle, c'est quoi ? C'est ça. C'est qui, ce gars ? C'est pas que ça soit du vin, du Canada Dry ou je sais pas quoi. Il aurait pu le changer en Orangina, s'il voulait, on s'en fichait. Le point, c'était, il fait un miracle pour alerter les gens sur qui il est. Et du coup, dans ce miracle, le vin, c'est secondaire. C'est pareil, dans les paraboles, je reviens sur les paraboles et sur l'interprétation, on ne doit pas tout analyser dans la précision. À un moment donné, vous avez l'économe infidèle. Et il nous a expliqué que le gars, donc, il doit se faire virer, et comme il va se faire virer, pour avoir des gens qui vont peut-être être favorables envers lui, notamment financièrement dans l'avenir, puisqu'il va être au chômage, qu'est-ce qu'il fait ? Il va voir les débiteurs de son maître. Il leur dit, alors je vous la fais en français courant, hein. Toi, tu devais 100 000 euros à mon maître, tu prends un papier, tu marques 50 000. Toi, tu devais combien ? 30 000, tu vas marquer 20 000. Et toi, tu devais 10 000, tu vas mettre 5 000. Et à la fin de la parabole, c'est bravo, super l'économe. Alors, qu'est-ce qu'on doit comprendre ? Qu'il faut frauder ? Non. Pourquoi ? Parce que les paraboles, ce sont des images. Et ça, c'est important ce que je vous dis, parce que c'est pareil quand on enseigne un cours ou quand on prêche à l'église ou quand on lit dans un livre. Comprendre une chose, c'est simplement, c'est du français ce que je vous dis. C'est quoi une image en rhétorique ? Une image n'est jamais la vérité. C'est une image pour illustrer, pour faire comprendre une vérité. La vérité, ce n'est pas l'image. C'est ce qu'on veut faire comprendre derrière. Donc, quand on prend des petites histoires, machin, pour faire comprendre un truc, ne cherchons pas à analyser l'histoire qui a été donnée là, oui, mais ceci, cela. Non, on s'en fiche. La question, c'est avec cette histoire, c'est quoi que qu'est-ce que je dois comprendre dans le message au pupitre, mais qu'est-ce que je dois comprendre là, dans la parabole ? Qu'est-ce que je dois comprendre ? Et il ne faut pas s'arrêter sur tous les détails. Ce qui veut dire, et pareil, quand je dis il ne faut pas s'arrêter sur les détails, ça veut dire qu'effectivement, pareil, ce n'est pas parce qu'il y a plusieurs paraboles où il est parlé de noces que chacune de ces paraboles parle forcément des noces de l'agneau, de Jésus qui va se marier avec son Église. Des fois, ça parle de ça, des fois, ça ne parle pas de ça. Et après, pareil, même à l'intérieur, même quand ça parle même de l'événement auquel je m'attends, sous quel aspect ça l'aborde. C'est-à-dire que quand je prends par exemple Matthieu 25, la parabole des 10 vierges, très bien, parabole des 10 vierges, sauf que Jésus, il n'est pas polygame. Donc les 10 vierges, ce n'est pas l'Église. On parle effectivement des noces de l'agneau de Dieu avec l'Église, sauf que les 10 vierges dans l'histoire, ce n'est pas l'Église. Parce qu'il y a des chrétiens, et même des bons, enfin quand je dis des bons, je reprends ma parole, des qui ont écrit ou prêché des choses très édifiantes et très correctes, qui par exemple là-dessus vont partir de l'idée que les 10 vierges, justement, ça représente l'Église, et comme il y en a 5 qui arrivent à l'heure, il y en a 5 qui arrivent en retard, le retour de Jésus-Christ, l'enlèvement de l'Église va se faire en deux temps. Il va arriver au début de la tribulation et les bons chrétiens vont partir avec lui. Et les mauvais chrétiens, qui sont les 5 vierges qui n'avaient pas d'huile dans la lanterne, lui, il va venir les chercher, mais au milieu de la tribulation, parce qu'il va falloir se perfectionner par l'épreuve de la tribulation. Sauf qu'ailleurs, en Thessaloniciens, il nous est dit justement je vous épargne de l'heure de. Enfin, c'est très mal paraphrasé de ma part. Je vous épargne du temps justement de tribulation ou d'épreuve. Bon, puis après il y a d'autres arguments et ce soir on va pas parler d'eschatologie. Mais juste pour vous faire comprendre que voilà, c'est des paraboles et il faut faire attention. Il faut d'abord comprendre c'est quoi l'idée principale. En fait, il faut comprendre c'est quoi le but de la parabole. Et le but, il y en a pas 50. Il y en a pas 3, 4, 5, 6. Non, non. Une ou deux idées à tout casser, c'est tout. Et à partir de là, ce que je peux éventuellement interpréter autour, ça doit être soumis à cette idée principale. Voilà. Tout comme, je veux dire, dans Luc 15, le fils prodigue. Le fils prodigue est un mauvais titre. C'est un mauvais titre parce que déjà, c'est pas en rapport avec les deux paraboles de. À la limite, si le titre était « Le fils perdu », ça serait cohérent. Voilà, « Le fils perdu », ça serait un titre correct. Mais l'autre titre correct, qui du coup vous donne deux idées principales dans cette parabole-là, et dans les deux qui précèdent d'ailleurs, c'est le père aimant. Parce que le personnage principal, en fait, c'est pas le fils prodigue, c'est le père. Tout comme dans les deux paraboles qui précèdent, le personnage principal, c'est celui qui perd quelque chose et qui va le retrouver. Voilà, je veux dire, donc du coup, faire des. Ça ne veut pas dire, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien dire du tout et qu'il n'y a pas de valeur à, mais il faut toujours le mettre sous les idées principales. Le but, ce n'est pas de montrer c'est quoi un bon chrétien, c'est quoi un chrétien pharisien, comme on va voir peut-être avec le fils aîné, etc. Ça, ce n'est pas le sujet principal. Ça doit se mettre en dessous du reste. Voilà. En tout cas, ce que je veux dire par là, c'est qu'à partir du moment où je parle de cette parabole-là, je dois bien expliquer de quoi ça parle, c'est quoi. C'est donc du coup le cœur du père et la repentance du fils qui est perdu. Et après, je peux parler d'autre chose, mais voilà, je sais que le chapeau, c'est ça. Et le reste, c'est juste des sous-points. C'est pas le. Et d'une part, c'est des sous-points, et ça, du coup, ça veut dire que ça ne peut pas avoir de grande valeur doctrinale. Je veux dire, si je veux expliquer c'est quoi un chrétien légaliste ou pharisien ou ce que vous voulez, oui, je peux prendre ça comme exemple, mais ça n'a pas une valeur absolue d'un point de vue doctrinal. Il va falloir que j'ai des éléments ailleurs pour expliquer qu'est-ce que c'est. Parce que c'est pas le lieu. Et en plus, c'est pas le sujet. Même si ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc, voilà. Et les choses que j'avais encore à dire. Donc, pas décortiquer les détails. Donc du coup, une mini-conclusion sur ce que je viens de dire. Donc, on n'établit pas une doctrine à partir d'une parabole. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de doctrine dans la parabole. Il y en a, même, c'est sûr. C'est sûr qu'il y en a. Mais je ne fonde pas une doctrine à partir de la parabole. Ma doctrine, je vais l'établir ailleurs dans le Nouveau Testament. Et ensuite, je vais l'illustrer et l'agrémenter, peut-être effectivement, avec des paraboles, avec d'autres éléments. D'accord. Bon, voilà, on a fait notre interlude. Donc, pour revenir aux choses laborieuses, on va aller donc dans l'évangile de Jean et on va juste voir un peu quelques éléments qui sont intéressants à cet égard. Est-ce que j'avais... Donc oui, l'évangile de Jean, première chose à savoir. Donc je vous ai dit, ça s'adresse à l'humanité, ça présente Jésus comme étant le Fils de Dieu, mais comme étant Dieu, en fait. C'est un évangile qui est forcément écrit très tard, puisque Jean a écrit son évangile, ses lettres et Apocalypse à la fin du 1er siècle. Et donc, contrairement aux trois autres évangiles, qui, eux, sont parallèles, enfin, c'est une vision parallèle, ouais, on va dire. Donc, lui, c'est déjà c'est un petit peu différent. Mais même dans le contenu, c'est différent. C'est-à-dire que Jean, la moitié de l'évangile de Jean relate la dernière semaine de Jésus-Christ. La moitié de l'évangile de Jean relate la dernière semaine de Jésus-Christ. Et l'évangile de Jean en entier relate 50 jours de la vie de Jésus. Donc on n'est pas exactement dans la même approche que les autres évangiles. Et bien sûr qu'on va raconter néanmoins la même chose en somme, mais on n'est pas exactement dans la même perspective. Ça veut dire qu'il y a donc des objectifs qui sont assez différents. Et justement, l'objectif, c'est de montrer que Jésus est Dieu. Alors, aussi une chose, donc celui qui a écrit, c'est Jean, et un des éléments, peut-être que je l'avais dit la semaine dernière, peut-être, qui est assez flagrant pour dire que c'est Jean. Bon, d'abord, l'histoire de l'Église nous le dit très, très tôt, au début du IIe siècle, les pères de l'Église et leurs successeurs attribuent l'Évangile à Jean. Mais une autre chose, c'est que dans cet Évangile, en fait, Jean ne se nomme pas. Il ne se nomme jamais lui-même. Il se nomme comme étant le disciple que Jésus aimait, comme étant celui qui s'est penché sur la poitrine de Jésus. Un certain nombre de choses comme ça. Quand, par exemple, Pierre court au tombeau, c'est Pierre et Jean qui courent au tombeau. Et c'est Jean qui arrive le premier, mais c'est Pierre qui rentre dans le tombeau. Et à aucun moment, il se nomme lui-même. Il parle de lui-même comme étant l'autre disciple, en fait. Donc, voilà, donc il en est l'auteur, et il y a ce genre de petites formulations qui ne laissent pas trop de doutes non plus. Donc l'adoration, on a dit la fin du 1er siècle. La tradition ancienne est quasi unanime et nomme Éphèse comme le lieu de rédaction, en tout cas de l'Évangile. Dans l'évangile de Jean, il y a huit miracles qui sont là, qui sont cités. Et puis il y a cette formulation à sept reprises qui parle de la divinité de Jésus, « Moi, je suis », où il est dit « Moi, je suis ». Et donc, notamment en Jean 8, 58, avant qu'Abraham fût, moi je suis. Mais c'est répété à 7 fois dans cet évangile et ça fait référence à la divinité de Jésus. Et bon, je ne le répète pas encore une fois, mais je le répète quand même. Donc, c'est toujours par rapport au tétragramme, Exode 3, 14, le buisson, enfin, le buisson, oui, le buisson qui ne se consume pas avec Moïse, etc. Autre chose, il y a un objectif, un objectif un peu d'apologétique aussi de la part de Jean vis-à-vis de ses auditeurs qui sont tous, en fin de compte. Parce que, par exemple, il utilise ce terme « logos », donc pour la parole et pour parler de Jésus-Christ. Donc c'est lui qui, au début de son évangile, parle de la parole en faisant référence que cette parole, en fait, c'est Jésus-Christ. Mais « logos », le terme en lui-même, parmi les philosophes grecs de l'Antiquité, ça, pour eux, ça fait référence à des notions philosophiques. Donc il est en train d'amener ce Jésus qui est ce « logos » dans leur notion philosophique d'explication du monde, pour expliquer que ce Jésus, en fait, c'est lui qui va expliquer le monde que vous essayez d'expliquer avec vos notions de logos et autres. Jean, l'auteur, évidemment, indique lui-même le but du livre. Afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Jean 20, 31. Ça, c'est l'objectif du livre pour l'apôtre Jean. Ok, sur Jean, qu'est-ce qu'on va vous dire de plus Oui, si j'avais quelque chose là, je vais vous lire ce que j'ai sous les yeux. Ouais, non, en fait, ouais, ça, c'est plutôt les synoptiques, mais bon, ouais, non, on va laisser tomber ça. Ok. Donc, on va continuer un peu sur notre avant d'attaquer Actes. Puis, si on a le temps, on attaque. Si on attaquera la semaine prochaine, c'est pas grave. Sur Actes, on verra quelque chose d'intéressant. On verra le parler en langue dans Actes, mais je pense qu'on ne verra pas ce soir. Par contre, on va peut-être voir quelque chose. On va revenir à nouveau dans la parole et on va. Donc, je vous ai dit qu'on allait voir un autre texte en Matthieu. Et là, on va rester un peu sur le... là, je vous ai fait un petit peu, on va dire, d'herméneutique avec les paraboles, les discours, les miracles, comment est-ce qu'on doit un peu comprendre les choses, les erreurs un peu à pas faire et tout. On va aller un peu dans la même veine. Et on va aller en Matthieu, à Matthieu 5. Et on va parler, en fait... Alors voilà, sermon sur la montagne. On va lire un peu, peut-être des petits bouts comme ça, mais juste pour vous faire comprendre quelque chose. Alors le sermon sur la montagne, c'est Matthieu chapitre 5 jusqu'au chapitre 7. Donc ça démarre au chapitre 5. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui, puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit... La montagne, on pense que c'était un plateau surélevé à côté de Capernaum. Et donc ici, effectivement, il fait quand même, on peut dire, une série de discours, ou un grand discours, comme vous voulez. On va plutôt dire une série, parce que ça fait un peu une enfilade, et à un moment donné, on va dire, oui, là, on change un peu de sujet, quelque part. Donc les chrétiens aiment bien le sermon sur la montagne, qu'on appelle aussi les béatitudes. On y trouve quelque chose, comment dire... En fait, voilà, pas mal de chrétiens ont tendance à lire le sermon sur la montagne en se disant, voilà, c'est un grand sermon qui... on pourrait dire, voilà, ils ont tendance à le prendre comme étant... C'est moi qui utilise ce terme-là, ce n'est pas forcément les autres. Ils ont l'impression que le sermon sur la montagne, c'est trois chapitres, c'est un grand, grand discours de Jésus, et ça serait en fait la théologie de Jésus, pour les chrétiens, pour l'Église, on va dire, voilà. Et ce n'est pas le cas. En tout cas, ce n'est pas du tout comme ça que je vois la chose. Je vais quand même vous montrer un petit peu pourquoi est-ce que je ne vois pas la chose ainsi. Alors, malgré les différences de point de vue sur le sermon sur la montagne, ou en tout cas de la manière dont on doit l'aborder et pour qui on pense que ça s'adresse, etc., et quel est le contexte, malgré tout, souvent les chrétiens vont, dans une certaine mesure, dire des choses assez équivalentes et assez justes les uns et les autres. Mais après, ils vont peut-être dire des grosses bêtises, des grosses âneries à d'autres endroits dans le sermon, parce que justement, ils ont un point de vue qui, à mon goût, n'est pas correct en termes d'interprétation. C'est-à-dire que ce sermon sur la montagne, si vous voulez, il ne s'adresse pas à l'Église, en premier lieu. En même temps, il s'adresse aussi à l'Église, il s'adresse à tout le monde, mais il s'adresse en premier lieu aux Juifs. Et je vais être plus précis. Matthieu 5, c'est le début de l'Évangile, c'est pas la fin. Le mystère de Jésus a duré, on va dire, 3 ans, grosso modo, et il y a eu 2 grandes phases dans le ministère de Jésus. Dans son ministère en tant que, oui, comme de Dieu, prophète, etc. Il y a une première partie où, en fait, il y a eu, l'abondance, une forme d'acceptation et un côté un peu positif où, c'est Jésus, il fait des miracles, bravo, c'est super, c'est super. Et puis une deuxième partie, c'est en gros la dernière année, où ça dérape, et ça dérape dur puisque ça finit sur une croix. Et en fait, selon la manière dont j'interprète les choses, dans l'enseignement de Jésus que l'on voit à travers les évangiles, en fait, il y a... alors bien sûr, vous allez dire, c'est très réduit ce que je veux dire. Je veux dire, il y a 2 enseignements. Bien sûr qu'il y en a beaucoup plus que 2. Mais il y a 2... on peut pas dire facettes, on va dire... on va dire qu'il y a une proposition, dans un premier temps, et il y a une forme d'enseignement prophétique dans la deuxième partie. Alors, pour l'instant, pour ceux qui ne connaissent pas très bien, ça doit être un peu trouble. Pour ceux qui connaissent, ils savent un peu où je vais, je pense, à peu près. En fait, dans la première partie, Jésus, il se présente à Israël comme étant le Messie qui doit venir comme étant le roi des Juifs, et il vient et il propose aux Juifs, à Israël, une délivrance physique, terrestre, et l'annonce d'un royaume à venir ici-bas sur terre, pour eux, là, maintenant. Si vous me reconnaissez tel que je suis, si vous vous repentez comme Jean le Baptiste vous l'a dit, là, c'est le millénium, et etc. Ce qui, à mon goût, explique pourquoi est-ce que... Alors là, je vais peut-être un peu vous perdre. Ce qui, à mon goût, explique... Je vous le dis quand même, si vous ne comprenez pas, ce n'est pas grave, vous aurez l'occasion de le réentendre dans un autre contexte. Quand Jésus maudit le figuier. Vous vous rappelez de cet événement-là ? Non. Alors, pour ceux qui... À un moment donné, il y a un figuier qui ne porte pas de fruits, et Jésus maudit le figuier, il n'y aura plus de fruits qui va... Puis ensuite, qu'est-ce qu'il fait ? Il rentre dans Jérusalem, il est accueilli avec des acclamations, Hosanna, Hosanna, les palmes devant lui, tout ce que vous voulez, il monte sur l'ânon, enfin, etc. Enfin, selon les prophéties, je crois que c'est en Zacharie, où il dit qu'il serait monté sur le fils d'une ânesse, sur l'enfant, oui, voilà, un enfant, peu importe, un ânon, enfin, en français courant, c'est un ânon. Hein. Faire simple, fils d'une ânesse, ou ce que vous voulez, on s'en fiche. Et il a donc ça, et dans la foulée de ça, qu'est-ce qui se passe ? Le lendemain ou le jour même, ils chassent les vendeurs dans le temple. Et le lendemain, sur le chemin, on va dire, du retour, le figuier qui a été maudit, il a séché. Et Et donc, voilà, pareil, là, on peut se dire, alors, tiens, c'est pareil, quand on parle de parabole, mais pourquoi est-ce qu'il maudit ce figuier? Je veux dire, il n'a rien fait. Un figuier, ça fait des figues quand ça doit faire des figues, et s'il n'y en a pas, c'est qu'il ne doit pas en faire. Sauf que ces figuiers devaient faire plusieurs cuvées, on va dire. Mais surtout, ça, ce n'est pas trop ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est qu'en fait, quand il maudit ce figuier, il est en train de parler d'Israël. Et il est en train il est à la fin de ce qu'il fait au début de l'évangile. Au début de l'évangile, il arrive, je suis le roi des Juifs, je suis le Messie, je viens pour que le millénium, le royaume de David, démarre là maintenant, avec moi et avec vous. Et donc, quand il maudit le figuier, c'est parce qu'il sait très bien qu'à Jérusalem, il va être acclamé et qu'ensuite, il va être crucifié. En fait, c'est une fausse acclamation, si on peut dire. Donc, en fait, vous me suivez ou je vous perds beaucoup, peut-être, hein ? C'est-à-dire qu'en fait, les Juifs, c'est ce figuier. Et il le maudit, ce figuier. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, il va rentrer, c'est Hosanna, super, c'est le roi des Juifs, mais en fait, dans le temple, c'est pas là, je renverse les tables, j'envoie tout balader, mais le lendemain, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas de repentance, donc il n'y a pas de royaume qui vient de suite. Et donc, il y a un projet qui est donné à d'autres. Et les autres, c'est le monde, et ça va s'appeler l'Église. Et ça, c'est la deuxième partie de prédication de Jésus. La fin de son ministère, ça va être ça. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, Jésus, il envoie ses disciples. Il leur dit quoi ? Non, pas quand il envoie ses disciples. Si même, oui, quand il les envoie, et puis lui, à un moment donné, quand il répond à une personne. Quand il envoie ses disciples, il dit, vous allez que vers les enfants d'Israël. Vous allez prêcher la bonne parole que aux enfants d'Israël, pas aux autres. Pourquoi ? Si Jésus est venu pour qu'il y ait une église, pourquoi il leur dit ça ? Surtout qu'un peu plus tard, il les envoie à nouveau et là, il ne fait pas de restrictions. À un moment donné, lui, il répond, je crois que c'est la femme syrophénicienne, il me semble, il lui dit, elle dit, mais moi, je veux un peu de pain qui tombe de la table, etc. Il dit, mais moi, je suis venu que pour les enfants d'Israël, je ne suis pas venu pour les autres. Alors, il fait quoi ? Il joue avec les émotions de la femme ? Non. Il est qui il est, il explique qui il est, et il vient premièrement pour être le Messie qui annonce le millénium attendu pour les Juifs, qui en l'occurrence est globalement refusé. Comme il est refusé, il y a une offre qui est offerte au monde entier. Monde entier dans lequel les Juifs sont inclus également. Puisqu'aujourd'hui, un Juif qui se convertit, il devient un chrétien. Quand il y a des églises ou des mouvements, ce sont les juifs messianiques. Mais ça, ça ne veut rien dire, bibliquement. Ce sont des chrétiens, point. Qu'ils aient une origine juive ou autre, ce sont des chrétiens, aujourd'hui, point. Et ce qui n'empêche pas que, du coup, cette annonce de royaume terrestre, elle est encore valable pour les juifs et elle viendra plus tard. Et du coup, l'église est une forme de parenthèse salutaire pour le monde. Et qui permet à Dieu, d'une certaine manière, de faire le travail qu'il demandait à Israël de faire dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire d'être une lumière pour le monde. Vous suivez là ? Ouais. Difficile, hein ? Donc, revenons au sermon sur la montagne, parce que pourquoi est-ce que je vous dis tout ça ? Parce que je vous dis que ça ne s'adresse pas à l'Église. D'ailleurs, une chose, entre parenthèses, hormis le sermon sur la montagne, vous lisez les quatre évangiles, est-ce que Jésus parle beaucoup de l'Église ? Qu'est-ce que vous pensez ? À part Patricia, qui sait ? Tu lis les évangiles, il parle de l'Église, Jésus ? Enfin, je ne dis pas qu'il n'en parle pas du tout, mais... Il n'en parle quasiment pas. Matthieu 16, c'est le seul endroit où il est utilisé le mot d'église. Et après, il peut faire plus ou moins allusion, mais il ne parle pas vraiment de l'église, en fait. Il en parle éventuellement sur la fin de son ministère un petit peu, en expliquant qu'il va ressusciter, etc., etc. Et donc, du coup, qu'il y a une fraternité entre vous qui doit... Voilà. Mais en fait, il n'en parle pas. Sermon sur la montagne, ça ne s'adresse pas essentiellement à l'Église, ça s'adresse aux Juifs dans la perspective d'une proposition du royaume millénaire pour les Juifs de suite. Alors, vous allez dire, pourquoi c'est important tout ça ? Ben, c'est important parce qu'il y a des chrétiens qui, avec le sermon sur la montagne, là où ils ont peut-être dit, par moments, des interprétations correctes, mais beaucoup de choses incorrectes, c'est qui, partant de l'idée que le sermon sur la montagne, ça s'adresse à l'Église, aux chrétiens, et qu'en plus, ils vont vous dire, ben, en fait, c'est la manière dont doivent fonctionner les chrétiens, il y a beaucoup de problèmes. Et je dirais même que, alors, il y a parmi ces gens-là, il y en a qui sont honnêtes et il y en a qui sont, pas dire malhonnêtes, mais on va dire qui sont moins cohérents avec leur présupposé de base. Ben, il y en a, puisqu'ils disent que ça s'adresse à l'Église, ils tirent la conclusion qui est complètement logique, de mon point de vue, et même je pense qu'en lisant, on va le lire après, absolument logique, c'est que donc, le salut est absolument conditionnel. Il n'est pas du tout par grâce. Il vous faut gagner votre salut si vous lisez le sermon sur la montagne. Si ça parle des règles de comment est-ce que les chrétiens doivent vivre ensemble, etc., c'est tout par les œuvres. En expliquant en même temps que vous êtes incapable de le faire, mais c'est quand même tout par les œuvres. Et là où je dis que les chrétiens, malgré leurs points de vue différents, vont se retrouver souvent sur des interprétations correctes d'un certain nombre de versets, mais pas de tous, c'est qu'effectivement... en fait, le sermon sur la montagne, là, peut-être qu'on va lire quelques versets, mais vous le lirez à la maison et vous verrez. C'est le sermon sur la montagne, c'est la loi de Moïse empire. Et quand je dis empire, ça veut dire qu'en fait, les dérogations qu'il pouvait y avoir, au moins dans l'application de la loi de Moïse par les Juifs, Jésus, il vire les dérogations. Et en plus, là où il va encore plus loin quand je dis que c'est empire, c'est qu'il demande que la loi de Moïse, elle soit pas simplement appliquée d'un point de vue visuel, c'est qu'elle soit appliquée au fond du cœur. C'est pour ça que dans le sermon sur la montagne, il va dire tu dis raca à ton frère, tu es un meurtrier. Tu regardes une femme avec une convoitise, tu es un adultère. La loi de Moïse ne disait pas ça. La loi de Moïse, elle dit, si tu commets un adultère, on va te zigouiller. Tu regardes une femme, tu la regardes, écoute, on n'en sait rien, on n'est pas derrière ton globe orbital. Hein. On n'en sait rien, je veux dire, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dans ta tête. Voilà, tu regardes, on peut supposer beaucoup de choses, mais voilà, ce sont les faits qui nous intéressent. Pourquoi ? Parce que la loi de Moïse, c'est, si vous voulez, de certaine manière, en grande partie, c'est un code civil pour une nation dans un pays. Il n'y a pas que ça, on est bien d'accord. Il y a des lois religieuses, il y a des lois sacrificielles, etc. Mais le point de vue moral, c'est quoi ? C'est comme en France, on a un code civil avec des lois, il y a des choses qu'on a le droit de faire, pas de faire, de la prison, ceci, cela, qui va avec la correspondance. Et là, Jésus, sermon sur la montagne, ben, écoutez, à vos souhaits, hein, on prend la loi de Moïse. Il faut qu'elle soit appliquée, mais de cœur. Et les 3-4 dérogations, parce que le corps de l'homme était mauvais, comme Jésus le dit, quand il parle du divorce, il dit, non, mais Moïse vous a donné une lettre de divorce parce que vous avez un corps mauvais. Sous-entendu, c'est une dérogation. Moi, la dérogation, je la dégage. Il n'y en a plus. Il n'y a plus de divorce. Fini divorce. Sauf s'il y a adultère. Sinon, divorce, vous ne m'en parlez pas. Très intéressant aussi en termes d'interprétation, pour justifier cela, parce que ça, c'est pas que ici, dans le sermon sur la montagne ici, ça, c'est répété aussi dans d'autres évangiles, dans un contexte qui n'est pas forcément le sermon sur la montagne, par rapport au divorce. Pour prouver ce qu'il dit, Jésus, en fait, pour expliquer ce qu'il dit, plutôt, il fait référence au fait que, au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. Donc, vos histoires de polygamie, de divorce, tout ça... C'est pas mon histoire. Et pourquoi je dis ça ? Parce que, par exemple, par rapport à la peine de mort, je pense que c'est la même chose. Quand, par exemple, ben, l'autre jour, je partageais sur Jean 8, la femme adultère, de toute façon, alors je ne vais pas refaire le message de l'autre jour, mais quand les pharisiens qui étaient en face de lui, qui amenaient cette femme avec un mauvais motif, qui n'amène pas l'homme, qui était probablement un des leurs, ça c'est mon interprétation personnelle, enfin, pas que moi, mais même si c'est pas du tout sûr, en tout cas, ça pointe vers ça. Le grand défaut de ces hommes-là, c'est que quand Jésus leur dit que le premier qui n'a pas péché, en fait, jette la pierre, le premier la pierre plutôt, que celui qui n'a pas péché, voilà, donc jette la pierre, lui, il s'adresse aux motivations du cœur, mais chose qui est intéressante, c'est qu'en fait, je pense que ces hommes-là, et ça par contre, c'est un enseignement pour nous en tant que chrétiens, ils n'auraient pas dû partir. Ils se sentaient coupables, mais ils n'auraient pas dû partir. Ils auraient dû rester là, et ils avaient des questions légitimes à poser à Jésus. Tu nous dis que celui qui ne pêche pas jette le premier la pierre. Donc, applique la sentence de peine de mort. OK. Est-ce que tu veux dire par là que tu abolis la peine de mort ? Est-ce que tu veux dire par là qu'on ne peut jamais juger personne ? Et après, on aurait vu ce que Jésus aurait répondu. Mais en tout cas, moi, les réponses, je les ai, avec la théologie. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, une des réponses que Jésus aurait pu donner à cet endroit-là, c'est qu'il aurait pu dire, par exemple, on va passer dans un autre fonctionnement, on va dire, et dans cet autre fonctionnement, je ne vous dis pas qu'il n'y a pas de peine capitale, je vous dis que la peine capitale que Dieu veut, pour aujourd'hui et pour tout le monde et pour tout type de société, c'est celle qui est avant la loi. C'est celle de Noé. Quand Dieu instaure la délégation d'autorité, donc le gouvernement humain, où il délègue à l'homme une partie d'autorité et où il demande à l'homme de gérer la société et donc d'appliquer, en l'occurrence, la peine de mort, comme on le voit en Genèse 9, je crois. Mais quel est le motif de peine capitale en Genèse à l'époque de Noé ? C'est pas l'adultère, l'homosexualité, le vol, le viol, le machin, le truc. C'est tu as tué, on te tue. C'est pas autre chose. Donc là, s'ils étaient restés, ils avaient posé des questions et que Jésus leur ait donné ce type de réponse-là, ben, on discute, on comprend. Mais ils sont partis. Pourquoi ? Parce que Jésus a aussi dit quelque chose et a fait des choses. Là, pour le coup, par rapport à tout ce que j'ai dit depuis le début sur comment interpréter les paraboles, les miracles, les discours, etc., il a dit des choses parce qu'en fait, au lieu de répondre techniquement à la question qui était posée, il a répondu, parce que comme je l'avais dit l'autre jour dans mon intro, en fait, on va dire légalement ou dans le contexte, Jésus ne pouvait pas s'en sortir en répondant à la question. Soit il disait, ben oui, il faut appliquer la loi de Moïse puisqu'on est sous la loi, et Jésus était sous la loi, donc normalement, c'est ce qu'il aurait dû répondre. Ils auraient dit, oui, mais nous sommes sous la gouvernance des Romains, et la peine capitale, il n'y a que les Romains qui s'octroient le droit de l'exécuter, donc nous ne pouvons pas. Donc tu es hors la loi de la loi romaine, donc on va porter plainte à toi devant César. Et s'il dit, ben non, on ne lapide pas, eux, ils vont dire, ben, tu n'appliques pas la loi de Moïse. Donc lui, il dit autre chose pour s'adresser aux vrais besoins des gens qu'il a en face de lui. Donc, pareil, en termes d'interprétation, du coup, est-ce que Jésus a répondu à la question qui était posée ? Non. Donc je dois comprendre tout le texte de Jean 8, la femme adultère, avec Jésus n'a pas répondu à la question. Ce que Jésus dit n'est pas une réponse à la question. Parce qu'après, il va y avoir des chrétiens qui vont dire, puisque là, manifestement, il n'était pas pour qu'elle soit lapidée, ben, il n'y a pas de peine capitale. Et en plus, il va dire effectivement, celui qui a pas péché, il jette le premier la pierre. Donc ça cadre. Ouais, mais ça ne cadre pas du tout avec la théologie. Ça ne cadre pas du tout avec la cohérence de la Bible. Et ça ne cadre pas du tout avec ce que Jésus pouvait faire, ne pas faire, et comment est-ce que dans ce contexte, je peux raisonnablement comprendre ce que Jésus fait et dit. Vous voyez ? Donc, pour vous dire que des fois, on se dit, les évangiles, c'est des petites histoires, c'est sympathique, c'est rigolo, c'est facile. Non. Faisons attention. Il y a beaucoup de choses à... Enfin, beaucoup, pas forcément beaucoup, mais Il faut être concentré et regarder les choses qu'il faut regarder et savoir qu'est-ce que j'ai sous les yeux, en fait. Ce Dex, c'est qui parle, à qui il s'adresse, c'est quoi le style, c'est quoi le type de livre dans lequel c'est écrit, c'est quoi le but du livre. Parce que tout ça, ça vous donne, ça va vous aiguiller pour comment est-ce que vous pouvez comprendre de manière correcte ce que vous avez devant vous. Ok. Alors, juste, ben, je vais vous lire avant de finir. On va lire le début du Sermon sur la montagne. Donc, puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Ça, en général, tout le monde interprète à peu près pareil la même chose. Tout va bien. On ne va pas trop s'énerver. « Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. » Très intéressant, ça, c'est pareil. Vous, les gens qui vont dire « Sermon sur la montagne », ça s'adresse à l'Église. Pourquoi l'Église, vous trouvez quelque part qu'elle doit hériter de la terre ? Ailleurs dans le Nouveau Testament, elle doit hériter de la terre. Quelle terre ? Par contre, la terre qui est, ceux qui ont un héritage sur cette terre, c'est Israël. Ça, on l'a vu le semestre dernier avec le survol de l'Ancien Testament. Là, il y a des promesses, des alliances, des machins, un millénium. Ça, oui. L'Église, non. On y saura. On y saura parce qu'on sera marié avec Jésus-Christ. Mais nous n'hériterons pas particulièrement de la terre. Donc, juste pour vous montrer qu'a priori, si je interprète les choses de manière correcte et globale, ça ne s'adresse pas, ce n'est pas en train de parler de nous. Mais on va continuer. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés, pourquoi pas. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Sous-entendu que ceux qui ne sont pas miséricordieux n'auront pas de miséricorde, alors. C'est ça que je dois comprendre ? Non, mais parce qu'à un moment donné, c'est ça, le texte, il faut comprendre ce qui est écrit et puis ce qui n'est pas écrit, ou ce que ça veut dire. Si heureux les miséricordieux parce qu'ils obtiendront miséricorde, qu'est-ce que ça veut dire ? Que ceux qui ne sont pas miséricordieux n'obtiendront pas de miséricorde. Bon, si je n'obtiens pas de miséricorde, ça veut dire quoi ? Que je ne suis pas sauvé, que je perds mon salut, que je suis où, je suis qui, je fais quoi ? Comment Dieu me voit ? Ça veut dire quoi ? Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ben, alors ceux qui n'ont pas le cœur pur, qu'est-ce qu'ils verront ? Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. D'accord ? Donc ceux qui ne procurent pas la paix, ils seront appelés... Je ne sais pas. Étant donné que le purgatoire n'existe pas non plus dans la théologie, ni dans l'Ancien ni dans le Nouveau Testament. Heureux ceux qui seront persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Donc il est nécessaire que nous soyons persécutés. Donc la règle numéro un pour un chrétien, c'est d'être persécuté. Si t'es pas persécuté, t'es pas chrétien. Ok. Très bien, pourquoi pas. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Bon, et puis après, on continuera peut-être un petit peu la semaine prochaine, là on va s'arrêter. Mais juste pour vous montrer, alors après, je fais un peu l'idiot, mais évidemment, je comprends bien qu'on peut donner une interprétation qui colle malgré tout à ces choses-là, mais en mettant d'autres éléments dedans. Mais ce que je veux dire, c'est que de prime abord, au premier degré, c'est pas à nous que ça s'adresse. C'est Israël qui héritera la terre. Les persécutions, quand je lis la suite du Nouveau Testament et que j'arrive à Apocalypse ou dans des Thessaloniciens, mais surtout à Apocalypse, manifestement pendant la tribulation, il va y avoir des persécutions. L'Église ne sera pas là. Par contre, Israël sera là. Et les 144 000 martyrs, ce seront tous des Juifs, hommes et vierges. C'est ce que dit le texte. Moi, je lis juste le texte d'Apocalypse. Ça colle. Le reste, c'est juste « je suis chrétien, je lis la Bible comme je lis Picsou ». Et après, je vais m'arranger, parce qu'après, on est chrétien, donc on connaît quand même d'autres choses, donc on connaît quand même un peu l'œuvre accomplie, Jésus, il est mort pour. Donc on va mettre les ingrédients, mais on ne les met pas à l'endroit. Donc on va rebondir sur un pied. Mais si on est honnête avec le rail d'interprétation qu'on a décidé de mettre au départ et de dire que ça s'adresse à l'Église, on est obligé de faire ce que je dis là. Alors, je ne sais pas quelle terre l'Église est censée hériter, Donc, il faut que nous soyons persécutés. Donc, si, comme il est dit, si vous ne procurez pas la paix, si vous n'êtes pas miséricordieux, et si vous n'avez pas le cœur pur, vous n'avez pas de part avec Dieu. Si ça, c'est la loi du royaume de Dieu qui serait l'Église. Sauf que ça ne peut pas être ça. Donc, il s'adresse à d'autres. Et après, dans un deuxième temps, je peux trouver des applications pour les chrétiens, pour l'Église, bien entendu. Et bon, après, on peut être qu'on regardera un peu plus la semaine prochaine, mais on aura du pain sur la planche. Donc voilà, on va s'arrêter là. Merci, à la semaine prochaine. Non, c'est que j'ai pas le temps de finir ce que j'ai prévu.